Bonjour, alors je suis Cédric Sonrel, je suis responsable à Cybercité du pôle analytique de la veille et des méthodes. Ça fait désormais 7 ans que je travaille à Cybercité et au fur et à mesure de mon parcours, j'ai commencé par être chef de projet SEO et puis ensuite chef de projet un peu sur des comptes un petit peu plus importants. Et puis je me suis rendu compte à un moment donné que j'avais des limites du point de vue du SEO parce que Google nous met des bâtons dans les roues. Et je suis rentré dans de l'analyse de données de plus en plus profonde, de manière à, d'une part, justifier mes prestations et d'autre part, apporter des KPI à mes clients, de manière à ce qu'ils puissent, à un moment donné, analyser leurs données, mieux les restituer à leur N+1, N-1, selon les différentes cibles de dashboarding que vous allez avoir dans votre entreprise. Et je suis rentré petit à petit dans la donnée, et ça fait aujourd'hui 4 ans que je fais de la donnée au sein de Google Analytics à Cybercité. Donc, simplement un petit aparté. Cybercité, Google Analytics, c'est avant tout des prestations sur mesure. Donc d'une manière générale, on est capable de faire des audits de compte analytics, c'est-à-dire déceler des problématiques, l'objectif étant à terme d'avoir une hygiène de données la plus propre possible, définir des KPI en association avec le client, de manière à mieux le servir dans la lecture de ses données, ou bien lui mettre en place des KPI pour mieux optimiser ses leviers d'acquisition, de l'intégration et de la reconnaissance en place bien entendu. Derrière, on fait également de l'analyse, c'est-à-dire du suivi des KPI, c'est-à-dire être capable, de, une fois qu'on a mis en place un plan de marquage ou un tag analytics, de pouvoir vous orienter dans des directions et faire du suivi. Et puis derrière, de la création de tableaux de bord et du dashboarding, justement pour imager les propos et éviter les tableurs Excel un petit peu indigestes. Donc au sein de Cybercité, sur 130 personnes, on a 40 personnes qui sont certifiées Google Analytics, donc à un moment donné, qui sont capables de vous apporter une forme d'expertise dans l'analyse des données. Et après, il y a notre pôle qui est un tout petit peu plus élevé en termes d'analyse. Donc on est certifié Google Analytics, Google Tag Manager et Google Data Studio. Donc, pour parler simplement, je ne vais pas trop m'étendre sur les bases de Google Analytics. L'objet ici, c'est de vous présenter quelques fonctionnalités un petit peu avancées, de vous fournir quelques quick wins à terme si vous voulez aller fouiller la donnée. On pourra toujours discuter de basiques un petit peu après si vous le souhaitez. Donc en fait, les bases de Google Analytics, la première chose à se dire, c'est que Google Analytics n'est pas un back-office. C'est avant tout un outil de tendance. Il y a énormément de données qui ne vont pas rentrer au sein de Google Analytics, simplement parce qu'aujourd'hui, on a la RGPD. Il y a des tags qui peuvent sauter, il y a des mises à jour qui peuvent être faites, et il y a 1000 raisons au final qui peuvent empêcher la collecte de données. Et donc, il n'est pas impossible à un moment donné, c'est des questions extrêmement récurrentes de la part de mes clients qui me disent « J'ai 800 commandes dans mon PrestaShop et j'en ai que 750 dans mon Analytics, comment ça se fait ?» Eh bien, c'est un peu comme ça. On essaye de mettre en place une intégrité des données la plus propre possible, mais ce n'est pas toujours possible. Donc, c'est avant tout un outil de tendance. La tendance est haussière ou baissière et à partir de là, on va mettre en place des ajustements. On est dans de la donnée macro, même si on peut rentrer dans du micro. Et bien sûr, il y a toutes les données d'échantillonnage qui peuvent arriver sur des sites. Alors là, on est quand même sur des sites qui vont avoir un volume de trafic important. Google Analytics, volontairement, vous coupe les données. C'est-à-dire qu'il va analyser les données sur 5% de l'ensemble de vos données. Donc là, niveau vision, c'est un petit peu compliqué. Et c'est des choses qu'on voit sur tous les sites Internet. Bien entendu, les bases d'une analyse réussie, c'est la configuration de l'outil. C'est-à-dire à la fois la configuration du back-office de Google Analytics, l'intégrité des données et la mise en place de tags. Vous verrez dans le petit document qu'on vous a fourni au niveau du livre blanc, il y a une règle qui dit un copier-coller n'est pas suffisant. Pour avoir de la donnée dans Google Analytics, il faut être capable d'aller au-delà du tag tout simple et mettre en place des KPI, des trackers pour mesurer, mieux mesurer en tout cas. Et finalement, la mise en place d'un plan de marquage qui répond logiquement à une véritable expression de besoin sur la base de KPI facilement identifiables, réalistes et mesurables. J'ai beaucoup de clients qui me demandent tout et n'importe quoi et au final, on n'est pas dans le cœur du sujet en termes de KPI avec deux objectifs, atteindre des objectifs de mesure et finalement, la finalité, c'est passer à l'action, c'est-à-dire avoir des conclusions pour ajuster telle ou telle donnée, ajuster le design de votre site, ajuster un formulaire qui pourrait être buggé ou sur lequel en fait, on va avoir un taux de fuite très important. Voilà, la mise en place d'un plan de marquage va servir à analyser vos données de manière beaucoup plus profonde. J'ai voulu vous mettre ici quelques objectifs de macro et de micro-conversion. On a souvent tendance à oublier les micro-conversions au sein d'un site. Et pourtant, c'est un levier très intéressant parce que ça permet de faire des points de jonction au niveau des mesures. Alors, si on prend un site e-commerce, effectivement, la macro-conversion, ça va être la transaction. Et on va s'interroger sur mon taux de transformation de mon e-commerce est de 2 ou 3%. Mais on pourrait aussi se poser la question de micro-conversion, de manière à mettre des jalons à un moment donné, c'est-à-dire envoyer des éléments qui vont nous permettre de mesurer l'inscription sur le site, qui est normalement l'étape numéro 1 avant le passage à une transaction. Ou encore un tout petit peu plus haut dans la mesure, un tracking qui va permettre de mesurer la mise au panier. Donc ça, c'est des choses qui ne se font pas automatiquement dans Google Analytics, mais qui sont très importantes parce qu'on va pouvoir mettre des jalons. On va savoir que vous avez 10 000 internautes qui arrivent, 500 qui mettent au panier, 200 qui s'inscrivent et au final, vous allez avoir 30 transactions. Et à partir de là, on va pouvoir mettre des limites et des paliers à l'analyse et identifier à quel moment est-ce que vous allez avoir des fuites. Alors, je vous laisserai ces slides, bien entendu. Pour les sites de contenu, les sites de lead, le e-commerce et le site de branding, bien entendu. Vous l'avez tous sur les genoux, à première vue, je vous invite vraiment à le lire. On est vraiment sur du classique des erreurs classiques de Google Analytics. Et on va passer tout de suite à la partie tirer parti de Google Analytics. Alors, je suis parti de besoins que je retrouve souvent chez mes clients et qui me le demandent régulièrement. Alors, un des besoins que je retrouve souvent, c'est j'ai besoin de segmenter mes sources de trafic. Pour ceux qui ne savent pas ce que sont les sources de trafic, c'est ce que vous allez retrouver dans les onglets d'acquisition, sources et supports. Vous allez retrouver à la fois des sources et des supports, Google organique, Google CPC, référent de tel site, Le Bon Coin, etc. L'ensemble des sources de trafic qui, à un moment donné, amènent une visite sur votre site internet. Ça, ce sont les sources de trafic. L'objectif étant de mesurer, bien sûr, la performance de vos différents canaux d'acquisition et faciliter l'analyse de la rentabilité de vos sources. Alors, il faut savoir que l'outil dont on peut se servir dans Google Analytics, c'est la configuration des canaux. Vous l'avez certainement vu. Et de base, en fait, Google Analytics vous donne une vision de vos différents leviers d'acquisition. C'est-à-dire qu'ici, vous allez avoir l'organic search, donc le SEO, le paid search, qui va être du trafic payant, en général d'AdWords, l'ensemble des sites référents, le direct et tous les autres, qui est une forme de fourre-tout que Google Analytics va vous mettre en place et qui représente ici 2,2 millions de sessions. Alors, les chiffres peuvent être importants, mais je pense que vous l'avez également. Et en fait, tout l'objectif de la configuration des canaux, c'est de remanier l'ensemble des sources d'acquisition de manière à avoir une vision beaucoup plus micro de vos données et de parler à votre N+1 ou à une équipe marketing, parce que le webmaster ou l'analyste n'est pas nécessairement le marketeur. Et ce genre de terme, à un moment donné, de la part de mes clients, il y a vraiment une vraie incompréhension. Et donc, en fait, l'idée, c'est de se dire, je vais entièrement remanier mes sources de trafic de manière à les splitter. Donc, on est toujours sur le même volume de données. Alors, c'est deux screenshots différents. Mais en fait, on a tout tuné. On a le trafic issu vraiment de Google et pas simplement de l'organic search. On a les sites référents, mais on a aussi splitté l'ensemble du trafic qui viendrait du groupe, c'est-à-dire vos sites partenaires, etc. Un lien que vous auriez acheté, une bannière que vous auriez mise en place sur un site partenaire, un lien en footer, une page partenariat. Vous pourriez flaguer l'ensemble de ces sites vous amenant du trafic et ensuite mesurer la performance qui vous intéresse, les visites, les conversions, le taux de transformation, etc. Et on peut aller très très loin. Ici, j'ai fait un screenshot que sur les 10 premières sources de trafic, mais pour ce client, on en a créé jusqu'à 40. Et de cette manière, en fait, chaque intervenant de la société est susceptible de voir ses propres résultats. Et après, en termes de wording, on met absolument ce que l'on veut. On peut le nommer comme un service marketing aimerait voir nommer des sources un peu plus intelligiblement. Alors, en termes de configuration, c'est assez simple. Tout se base sur une configuration qui va reprendre les sources et les supports et vous allez jongler avec. C'est-à-dire que vous allez prendre Google organique et le ranger dans moteur de recherche Google et vous allez rajouter, par exemple, un site référent, un tel. Et vous allez vous créer un groupe de contenu de manière à sortir de cette logique à 5 canaux pour arriver à X canaux. De la même manière, toujours dans la segmentation des données, j'ai beaucoup de clients qui ont des sites e-commerce ou des sites de lead un peu riches, avec beaucoup de contenu ou un blog. Et en fait, le besoin, c'est j'ai besoin d'avoir une segmentation de mes contenus. Je n'arrive pas nécessairement à lire au travers de mes URL, d'un groupe d'URL que ça appartient à telle partie de mon site, que c'est une page de catégorie, ou que c'est une page de produit, ou que c'est une page de catégorie de mon blog, ou c'est une page solution de mon site B2B, ou une page de je ne sais quoi d'autre. Bref, la segmentation des contenus. Et l'idée, c'est d'avoir quelle consommation pour quel type de page, et mesurer bien sûr la performance des sections du site. Et pour cela, un outil dans Google Analytics, qui est là nativement, mais qu'il faut savoir configurer, et qui s'appelle le regroupement de contenus. Donc, ça peut se faire d'une manière très simple, en jouant avec vos URL. Et dans la moitié des cas, ça va nécessiter un petit peu de dev pour mieux catégoriser vos URL. Et en fait, pour vous imaginer un petit peu ce que ça peut donner, donc on l'a fait sur un site d'immobilier. Et en fait, on a splitté l'ensemble de son trafic. Donc, on ne parle plus de pages, mais on parle de groupes de pages comme étant une home page. L'ensemble de ces pages, agences immobilières. L'ensemble de ces pages annonces, l'ensemble de ces pages listing d'annonces et l'ensemble des recherches faites à un moment donné par un internaute. Donc on ne se retrouve plus avec 100 000 ou 200 000 ou même 10 000 URL, on se retrouve avec ici 5 grands groupes de contenus facilement identifiables et dont on va mesurer par exemple ici les sources de trafic. Donc voilà, par exemple ma homepage est relativement puissante sur le SEO. Comme les pages agences et les pages annonces. Et de cette manière, on crée des petits dashboards pour mon client. Et en un regard, en fait, il a l'ensemble de sa donnée et il a juste à regarder une fois par semaine la performance dans le temps. Et c'est beaucoup plus simple pour analyser. Sachant qu'on peut aller beaucoup plus loin. De la même manière, pour ce client, on a voulu classifier à un moment donné, on a voulu sortir de la hiérarchisation. C'est une page annonce, c'est une page de listing, c'est une page de recherche. Et on s'est dit, tu as différentes typologies de pages. Ce sont soit des pages de vente de maison, soit ce sont des pages de location de maison. Bien entendu, la home ne rentre pas là-dedans, certaines pages ne rentrent pas là-dedans. Et de la même manière, on a identifié les pages achetées, des pages louées. Et de cette manière, on commence à lire une forme de performance sur le site. On est sur de l'achat. Pour aller plus loin, on s'est dit, on va splitter les types de biens. C'est-à-dire, dans les URL, on a le type de bien. Absolument parfait, pas besoin de développement, je sais si c'est une maison, un appartement, etc. Et donc, on a splitté de cette manière les types de biens. Et puis là, en termes de lecture, je veux acheter un appartement et ou une maison. J'ai quand même deux grandes catégories qui se détachent en un regard. Et finalement, on a voulu splitter également l'ensemble de ces pages. Ce client a beaucoup de pages listing, comme sur tous les sites immobiliers. Vous allez avoir des pages de région, des pages de département, des pages de ville, des pages d'arrondissement. Et on a également splitté ces pages. Donc on sait que c'est une page de forme ville ou de forme département. Et là, en un regard, avec trois tableaux, une stratégie SEO s'est découpée. Acheter un appartement dans une ville. La stratégie était toute faite. On sait que le levier à mettre en place d'un point de vue SEO ou d'un point de vue payant pourrait être celui-ci. Après, ça va dépendre des stratégies. On pourrait faire de la stratégie de conquête sur du département. Après, il y a de la stratégie à mettre en place. Mais en un regard, on arrive à voir la lecture. Donc ça, c'est des configurations très simples à mettre en œuvre si vous avez des URL parlantes. Un tout petit peu plus complexe si vous n'avez pas d'URL parlante. Mais c'est un très très bon point pour démarrer des analyses sur un site. Sachant qu'au sein de Google Analytics, vous avez le droit à 5 regroupements de contenu, c'est-à-dire par exemple un type de page. Vous allez lister tous vos types de pages, c'est une catégorie, un produit, un check-out, ma home page. Et vous pourriez, à vous d'être imaginatif par rapport à votre thématique, par rayon, c'est-à-dire récupérer le grand rayon de votre site e-commerce, par gamme, si vous avez des gammes de produits. Par marque, ça peut être intéressant si vous êtes un gros revendeur de marque. Par géolocalisation, par type d'affichage de vos pages, par tri ascendant ou descendant, qui peuvent être des stratégies intéressantes à tester à un moment donné. Est-ce que les internautes convertissent mieux si je mets mon filtre de page listing en ascendant ou en descendant du prix? C'est des choses à tester, par exemple. Il y a des résultats intéressants à faire. Voilà, vous avez droit jusqu'à 5 regroupements de contenu pour découper l'ensemble de vos leviers. Une autre fonctionnalité très intéressante, que j'ai peu vu sur vos différents sites, mais que j'ai notamment vu sur un site qui s'appelle Emery's Toiture. Je ne sais pas si la personne est ici. Mais ce sont les variables personnalisées. En fait, le besoin, c'est qualifier ou quantifier vos audiences. C'est analyser le comportement de vos audiences et analyser, bien sûr, la performance de vos audiences. Et l'outil disponible dans Google Analytics, qui est un tout petit peu caché, c'est ce qu'on appelle les variables ou les dimensions personnalisées. En fait, c'est la possibilité à un moment donné de flaguer son audience avec un petit script et de le définir comme étant, par exemple, connecté ou non connecté à votre BO, lecteur de contenu ou scanner de contenu pour certains sites sur lesquels vous allez avoir du blog ou des pages un petit peu riches où vous allez présenter vos solutions. Donc à titre d'exemple, on le met en place sur certains de nos clients, on prend l'ensemble du contenu, on compte le nombre de mots, on le divise par le temps moyen de lecture de votre cible. Un ingénieur lit 250 mots minute, un élève de CM2, 50 mots. Et donc, on s'adapte à votre cible, on démarre un timer, et à partir de là, on sait si l'internaute est un scanner de votre contenu ou un lecteur du contenu à partir du moment où il dépasse ou pas le temps. Et donc, on peut mieux mesurer la performance de vos contenus, les efforts à fournir aussi, et pourquoi pas des CTA à mettre en place à un moment donné. Si on se rend compte que votre audience lit pendant 15 secondes et que votre bouton de « envoyez-moi un devis » est tout en bas de votre page, eh bien ça ne sert à rien. Vous n'aurez pas de transformation, ou du moins pas d'intention de transformation et de clic sur ce bouton. Donc on le remonte. C'est des mesures toutes simples. La valeur totale estimée de l'internaute, c'est des choses qu'on peut récupérer au sein de, avec une liaison de vos, avec votre base de données. Moi, Cédric, je suis l'ID 12 sur votre site internet. Si je me connecte, on peut injecter l'ensemble de ma valeur. C'est-à-dire que j'ai pu commander 3 fois pour une valeur de 1200 euros. Et donc après, on peut s'amuser à faire des couples. Si l'internaute est inférieur à 500, alors c'est un petit budget. S'il est entre 500 et 1000 euros, il est bien. Et on peut s'amuser en fait à segmenter son audience avec des données issues de votre base de données. Et puis bien sûr, après, on est encore dans de l'imagination, selon le genre, la CSP, l'étape du cycle d'achat. On pourrait flaguer un internaute qui voit une page de catégorie comme étant tiède, quelqu'un qui voit une page produit comme étant un peu plus chaud, quelqu'un qui clique sur le panier comme étant très chaud, etc. Et après, on peut s'amuser à faire des listes d'audience. Donc voilà, par exemple, qu'on peut mettre en place sur un site. Donc là, l'avantage, on était sur un site de vente privée. Donc tout le monde était logué tout le temps. Donc c'est quand même un gros avantage d'avoir cette audience de logués. Et en fait, on les flaguait. Donc en fait, on savait qu'ils étaient simplement membres du site, avec un chiffre d'affaires très faible, qu'ils étaient non-membres, donc il n'y en a aucun puisqu'il faut absolument être logué sur le site et ils n'apportent aucun chiffre d'affaires. Premier acheteur, donc avec un chiffre d'affaires de X milliers d'euros. Et finalement, buyer, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'une vente à son actif. Et en fait, la cliente s'en sert, elle, pour faire des listes de remarketing dans AdWords. C'est-à-dire qu'elle envoie cette audience et ensuite, elle les retargete. Ou elle s'en sert dans ses leviers payants, en tout cas. Et de la même manière, des notions sur le lecteur ou le scanner. Et puis tout l'intérêt derrière, c'est qu'on peut utiliser ce type de variable après pour utiliser d'autres outils. On va par exemple utiliser des outils de marketing automation, c'est-à-dire ces outils qui affichent à un moment donné une pop-up ou une pop-in si vous correspondez à un scénario. C'est-à-dire là, on peut très bien se dire, si l'internaute qui se connecte est un first buyer, mon objectif à moi, c'est de le transformer en buyer. Donc je vais lui afficher une promo un peu agressive, adapter le message bien entendu, et on essaye de le faire passer de first buyer à buyer, etc. etc. On essaye de faire passer les membres, les non-membres en membres. Bref, on est dans de l'amélioration continue ensuite des transformations. Donc données très intéressantes à mettre en place, un tout petit peu complexe, sachant qu'il existe tout de même sur la majorité des CMS open source type Magento, PrestaShop ou WordPress, des plugins peu coûteux, qui ne nécessite pas nécessairement beaucoup de dev et qui vous remonte ces données. Reste ensuite la configuration de l'outil Google Analytics et savoir si ça répond réellement à votre besoin ou pas. Mais ça se fait assez rapidement. C'est l'analyse qui est compliquée après. Après, Google Analytics, pour parler de fonctionnalités qui vont changer un petit peu de la notion de transformation ou de session. L'idée, c'est d'utiliser Google Analytics à un moment donné pour créer du contenu ou mettre à jour un catalogue. Le besoin, c'est de trouver des idées de contenu à développer. Alors, il y a des outils tiers pour le faire, c'est pas un souci, mais on peut aussi s'en servir dans Google Analytics si on a des budgets un petit peu serrés, sachant qu'on a des données de transformation ou d'acquisition derrière. Ou bien développer des nouvelles opportunités thématiques, que ce soit en SEO, en SEA ou en content. Donc les outils disponibles dans Google Analytics, donc ça aussi je crois que ça fait partie d'un des 10 points, c'est la liaison à la Google Search Console, qui est un outil de Google et qui vous permet de mesurer la performance quelque part de votre SEO. Et vous pouvez faire à un moment donné une liaison entre Google Analytics et Google Search Console, et ainsi vous avez davantage de données SEO au sein de l'interface. La configuration de la recherche, qui est logiquement présente à la fois sur des sites type WordPress de contenu et à la fois sur des sites e-commerce. Et bien sûr, le tracking des résultats de la recherche, mais j'en parlerai un tout petit peu après. Donc le suivi de la recherche dans Google Analytics, ça se passe dans la vue et dans les paramètres de la vue. Vous l'activez et en fait, vous vous amusez à faire une recherche dans votre moteur de recherche. Et en toute logique, vous allez avoir une URL qui va dire monsite.fr/recherche/search égale, donc un paramètre, quelque chose avec un point d'interrogation. Et c'est ça que Analytics va vous demander de mettre en place. Vous allez mettre le paramètre query, S, recherche égale, et vous allez simplement mettre ce petit paramètre. Et ensuite, Analytics sera en mesure d'analyser votre recherche. Sur un WordPress, c'est S. Sur un PrestaShop, c'est Q. Sur un Magento, je crois que c'est query. Et sur d'autres CMS, je ne sais pas trop. Enfin, il faut regarder pour que ça fonctionne. Et en fait, l'avantage, c'est que ça va vous donner l'ensemble des requêtes de recherche faites par votre internaute et vous donner accès à des tableaux de données. Et pour la Search Console, ça se passe dans la propriété, tous les produits, mais je crois qu'il y a un petit laïus sur le livre blanc. Donc pour Search Console, à ce jour, c'est le seul moyen de retrouver des données mots-clés. En 2011, Google Analytics nous a coupé entièrement la partie mots-clés de la recherche organique, donc celle qui est liée au SEO, et nous a tout remplacé par un gros not provided, nous aveuglant complètement en termes de performance SEO. Alors on a pallié le problème avec d'autres outils. Et l'idée de la Search Console, c'est de détecter des champs sémantiques. Donc en fait, la méthodologie, elle est assez simple. Elle ne sera peut-être pas adaptée à l'ensemble du public ici. Mais l'idée, c'est, dans Google Search Console, vous avez plusieurs indicateurs. Vous avez un indicateur d'impression. Je me suis imprimé 10 000 fois sur la requête Intel. Cette même requête a été cliquée tant de fois. Et derrière, il y a un calcul de CTR qui est fait, qui est le ratio impression-clic. Et donc l'idée, c'est d'aller chercher des impressions fortes. Donc je ne mets pas de chiffres parce que c'est lié à votre impression, avec des positions moyennes élevées, mais si possible dans le top 10 ou dans le top 20 de Google, là où on est juste derrière la concurrence et où on aimerait pouvoir émerger. Et quand on fait le travail sur certains des sites clients, donc là on est sur un site qui fait du voyage en Australie. Et en fait, quand on s'amuse à regarder un petit peu, on voit qu'on fait ce travail, alors il faut jongler avec les impressions et les clics et les positions. Mais on se rend compte qu'ici, on a une impression d'un mot-clé qui s'appelle Visa Australie. Ce client est situé entre la 10e et la 20e position. Il n'a que 25 clics parce qu'il est loin en termes de positionnement. Mais par contre, il y a beaucoup d'impressions. Et c'est pile poil dans sa thématique. Et c'est soit une page qui se positionne mal, parce qu'il a une page qui parle vaguement des visas en Australie, dans l'ensemble de ses contenus dédiés à l'Australie. C'est un voyagiste avant tout. Ou bien, il faut créer un contenu tout neuf, tout frais, tout beau, de manière à essayer de pousser cette donnée. Et ici, en fait, en faisant quelques analyses, on peut trouver facilement 2, 3, 5, 10 contenus à développer ou à redévelopper sur son site parce qu'on est en embuscade à un moment donné. Donc, Visa Australie, Vol Australie, Fuseau Horaire Australie, qui sont des questionnements très intéressants de la part de l'internaute en plus. Et après, on peut s'amuser aussi à scinder tout ça en fonction d'une étape d'achat. Ici, on est plutôt sur une étape d'achat où l'internaute a presque déjà fait son voyage. Il a déjà sélectionné son voyage. Il cherche des infos sur son visa. Alors, soit il n'a pas encore acheté son billet d'avion, soit il a déjà acheté son billet d'avion et il sait qu'il a des démarches à faire. Le vol Australie, ça ressemble quand même à une requête où on est seulement à la recherche de son vol. Donc, on est à l'étape 1 de la customer journée. Et puis, le fuseau horaire Australie, là aussi, on peut peut-être s'imaginer que la personne a déjà pris son billet d'avion et cherche à se renseigner. Donc voilà, on peut aussi s'amuser à faire ces catégorisations grâce à la Search Console de quel contenu je vais développer pour quelle étape du parcours d'achat, au final. Donc ça, c'est des réflexions un peu personnelles liées à votre business à un moment donné. Ce qu'il faut retenir, c'est cette capacité de cet outil à vous donner des idées pour créer du contenu. Il y a également l'ensemble des données du moteur de recherche. Donc là, sur des données un peu globales d'analyse de moteur de recherche, 40% des internautes préfèrent utiliser la recherche sur un site. Ils ne s'embêtent pas, ils ne passent pas par la home, ils ne passent pas par votre menu. Si le champ de recherche est visible, ils tapent tout de suite dans la recherche. L'intérêt d'avoir quand même un moteur de recherche un tout petit peu pertinent, qui ne va pas donner trop de produits, pas assez, qui va avoir une sémantique un petit peu parfaite. 30% des internautes tapent des très longs mots dans le moteur de recherche. Et finalement, 12% des internautes partent à la concurrence si le résultat de la recherche n'est pas pertinent. Ça fait 1 sur 10, c'est énorme. Et Dieu sait qu'il y a des problèmes de moteur de recherche en termes de pertinence. Et donc en fait, une fois que vous avez configuré cette recherche, donc mis le paramètre en place au sein de l'interface de Google Analytics, vous allez avoir un rapport qui va se mettre en place avec énormément de KPI. Alors l'idée, ce n'est pas de tous vous les expliquer, mais de faire un petit peu attention. Donc vous allez avoir le nombre total de recherches uniques. C'est-à-dire ici, on a 10 527 internautes qui, pendant leur visite, ont fait une recherche. C'est-à-dire que s'il en fait 10, il est comptabilisé qu'une fois. Ensuite, on a le nombre de pages vues, c'est-à-dire les pages de résultats affichées par l'internaute. Comme vous renseignez dans l'interface le paramètre de recherche, Google Analytics, si vous allez sur la page 2 de la recherche, la page 3 de la recherche, il est capable de savoir que c'est une page de recherche. Donc, 3,28. Si vous êtes supérieur à 4, il y a deux solutions. C'est soit votre moteur de recherche, soit vous avez beaucoup trop de produits et la requête de l'internaute n'était pas pertinente. Vous vendez des matelas, par exemple, et vous tapez matelas, c'est normal que vous ayez énormément de listings. Mais il faut quand même essayer de regarder si votre moteur n'est pas trop laxiste en termes d'affichage produit. Ça veut dire que l'internaute ne trouve peut-être pas son produit ou si la sémantique de votre moteur de recherche n'est pas pertinente. Un mot peut... Il y a des moteurs de recherche qui cherchent, par exemple, dans la description du produit. Et là, ça peut vite être la catastrophe parce qu'il y a des termes hyper récurrents dans des fiches produits. De la même façon, il y a la sortie après recherche. C'est un internaute qui a été sur une page de recherche et il a quitté votre site. Donc là, plus le chiffre est élevé, plus vous perdez de l'audience. Ça veut dire que vous devez avoir soit un problème d'offre, vous n'avez pas le produit à un moment donné, ou soit il en a eu marre d'utiliser votre moteur de recherche. Donc c'est des chiffres à surveiller. La précision des recherches, c'est un internaute qui va taper une recherche puis en retaper une deuxième, donc avec deux termes de suite. Donc là aussi, c'est des choses à regarder au niveau du chiffre. Ça peut vouloir dire que votre moteur n'est pas pertinent ou trop restrictif. Donc c'est des tests à faire sur certaines des requêtes qu'il faut analyser les chiffres, regarder, les filtrer, regarder les pires résultats et essayer en tapant vous-même ces requêtes. Et donc voilà, donc quelques petits KPI ici. Ce n'est pas la vérité vraie, c'est toujours à adapter bien entendu. Et puis bien sûr, il y a un point qui est souvent négligé, c'est la requête vs l'arborescence. Pour vous parler d'un client qui fait du jouet, sa top recherche dans son moteur de recherche était Monopoly. Et cette personne, en fait, n'avait pas de page SEO Monopoly, c'est-à-dire une page listing donnant accès à l'ensemble des jeux Monopoly. Et pourtant, Monopoly créait des Harry Potter, toutes les licences Disney. Bref, il avait au final une quarantaine de Monopoly à présenter à son audience. Bref, l'analyse des termes de recherche, on a fait un match entre est-ce que ça existe dans l'arborescence, est-ce que ça n'existe pas, est-ce qu'il y a du potentiel ou pas, et on a été développer du contenu. Donc un petit peu comme... comme cette analyse de la Search Console, vous avez les données du moteur de recherche à un moment donné qui va peut-être vous orienter sur de la création de contenu, sur des bonnes idées. Et puis finalement, des fonctionnalités qu'on met en place et qui nécessitent un tout petit peu de développement, c'est la mise en place de la... On compte le nombre de résultats dans la recherche. Parce que l'idée, c'est pas de savoir ce que tape l'internaute, c'est de savoir et vous aider pour éviter d'avoir à faire ces analyses un peu fastidieuses qui sont vraiment liées à votre thématique, c'est qu'on compte simplement les nombres de résultats dans la recherche et on les injecte dans Google Analytics. Donc là, je vous fais par exemple un focus sur toutes les données qu'on récupère. Donc ça va donner ça à un moment donné dans votre moteur de recherche. Donc quelqu'un qui cherche Presosta, Hunter, peinture. Et en fait, à l'intérieur de ces événements, on sait qu'il y a 9,83% de l'ensemble des recherches de l'internaute qui donnent des recherches sans résultat. Donc, si on commence à accumuler un petit peu les données, de 12% des internautes partent si les résultats sont pas pertinents. Si on rajoute les 9,83% de recherches sans résultats, eh bien, on commence vraiment à avoir des fuites énormes en termes de transformation. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on avait un mot-clé qui était chlore. C'était un pisciniste et personne vraiment ne sait bien taper chlore. Chlore, le H, je le place où, le L, je le place où. Pas toujours très simple et son moteur de recherche, en fait, lui, ne comprenait pas en termes de sémantique. Donc on s'est rendu compte de ce mot-clé chlore un petit peu bizarre. On a modifié les données au sein de son moteur de recherche. Donc quand on tape chlore et chlore avec tous les orthographes qu'on a décelés, ça renvoie du chlore. Et là, la transformation, alors c'est pas grand-chose, hein, c'est quelques dizaines de transformations sur l'année. Mais au final, il y a de la satisfaction, il y a de l'UI, il y a de l'UX, et puis il y a de la conversion derrière. Je crois que ça lui a rapporté quelque chose comme 3000 euros supplémentaires. Donc pour une petite mise à jour de code, c'était plutôt intéressant comme levier. Et pour parler encore d'un levier qui va être le netlinking, alors qui est peut-être un petit peu obscur pour vous. Donc le netlinking, c'est la capacité d'obtenir des liens à un moment donné de la part de partenaires, de blogs ou dans une démarche plus SEO. L'idée, c'est d'avoir du partenariat. Un des besoins qui vient, c'est identifier les partenaires et optimiser les encres de liens. C'est-à-dire que vous recevez à un moment donné du trafic de la part d'autres sites internet et vous ne le savez peut-être pas. Et donc, en fait, l'idée, c'est d'analyser en fait deux données. Dans Google Analytics, c'est l'analyse du réseau display, pour ceux qui font du display, et l'analyse des sites référents. C'est-à-dire avoir la capacité de supprimer un petit peu tous ces webmails, ces sites un petit peu bizarres qui vous envoient du trafic, et de se dire à un moment donné, je vais identifier les sites qui m'envoient du trafic, soit pour aller voir ce qu'ils racontent sur moi, soit pour faire un partenariat, soit pour obtenir un lien. Donc l'idée, en fait, c'est d'aller analyser l'ensemble de vos sites référents et d'aller taper dans les thématiques qui vous intéressent. Donc là, c'est un autre exemple d'un autre site d'immobilier. Et en fait, on a rapidement identifié des séries de blogs, de contenus plus ou moins propres. Après, on a fait le tri. Mais l'idée, en fait, c'était d'aller chercher un petit peu ces apporteurs de trafic et essayer d'un côté de gratter un lien, d'un autre côté de reprendre la description, de changer une page qui serait en 404, par exemple, et qui amènerait vers une page morte de mon contenu. Bref, cette démarche est intéressante à faire, sachant que d'une manière générale, vous avez des outils dans Analytics qui automatisent quelque part cette démarche. Vous créez le filtre et après, vous le réutilisez une fois par mois, tous les trimestres, comme vous le souhaitez. Et on va quand même passer sur la notion de performance. Quand on a un taux de transfo de 2%, on a quand même 98% des internautes qui ne transforment pas. Donc l'idée, c'est quand même de se dire à un moment donné, je vais aller gratter ce dixième de point de transformation. Et pour ça, il y a des outils dans Google Analytics. Donc là, je vais quand même plus m'adresser aux e-commerçants dans la salle. Ça sent que ça peut aussi se faire en modifiant un peu les données sur du contenu. Donc en fait, le besoin, d'une manière générale, pour des e-commerçants, c'est que fait mon client avant d'acheter, effectivement. Est-ce qu'il y a une influence de la position du produit dans mon listing? Est-ce qu'il faut que je le mette en tri ascendant, en tri descendant? Est-ce que mon top produit, je dois vraiment le mettre en haut parce qu'il va scroller, ou est-ce que je le mets au milieu? Bref, ce genre de questionnement dont on n'a pas nécessairement la réponse. La part de retrait du panier, des ratios, type combien de pages vues sur mon panier vs ma mise au panier. Le type de paiement le plus performant, qui peut parfois entrer en ligne de compte. L'utilisation ou l'influence d'un code promo. Nativement, sur l'ensemble des sites e-commerce un peu open source, vous avez toujours ce bloc code promo. Et pour ça, en fait, vous avez une fonctionnalité dans Google Analytics qui s'appelle le e-commerce avancé. Alors là, je vais parler quand même de développement. On est sur de la mise en place liée à du développement. Mais l'idée, en fait, c'est de vous imaginer un petit peu ce qu'on peut faire avec quand même. Donc, je ne sais pas si certains d'entre vous utilisent ce qu'on appelle la notion d'objectif dans Google Analytics, c'est-à-dire le calcul d'une notion d'objectif. La transformation a un taux de transformation de 3,2%. Et en plus de ça, dans les objectifs, on peut créer ce qu'on appelle des entonnoirs de conversion. C'est-à-dire, à un moment donné, indiquer des URL à Google qui va nous donner une vision d'un entonnoir de conversion. Donc, sur un site e-commerce, on va partir du panier. Ensuite, on a la page d'inscription, on a la page récapitulative de commande, on va avoir la page choix du mode de paiement. Et au final, on appuie sur le bouton pour aller payer et on a le retour boutique. Donc, on peut indiquer toutes ces URL dans Google Analytics. Et en fait, ça vous fait un entonnoir. Ici, j'ai eu 87 000 pages vues sur mon panier et j'ai que 51% de mon audience qui est passée à l'inscription. Et donc, en fait, je ne vous ai pas mis tout l'entonnoir. Et en fait, on a la possibilité de voir toutes ces étapes et se dire, j'ai une fuite à telle étape. Donc, je vais aller mettre un autre outil, Hotjar, Quicktail, quelqu'un qui va regarder un petit peu comment un analyseur de formulaire, par exemple, pour se dire, ici, j'ai 50% de mon audience qui fuite, mettons un outil pour regarder. C'est peut-être le double champ téléphone, le double champ adresse, une autocomplétion du code postal qui est complètement pas à faire. Enfin, toutes ces données, on pourrait avoir, avec d'autres outils, des données. Et comme ça, on va cibler un peu la problématique. Et après, on met du test A/B, on teste et on essaye d'améliorer toujours dans une vision progressive. Donc, il faut savoir que par défaut, un entonnoir de conversion démarre la page panier sur tous les sites. Parce qu'avant, on ne peut pas savoir que c'est une page produit, parce que vous avez des URL différentes. Et donc, en fait, on analyse 50% de mon audience sur 0,75% de mon audience totale. Donc, en fait, on se met des grosses œillères et on se dit, j'ai un gros problème ici. Mais en fait, ce n'est peut-être pas ici que vous avez le problème. Il est peut-être beaucoup plus haut. Et c'est là qu'intervient, quelque part, la vision e-commerce avancée, qui va transformer entièrement votre site en entonnoir de conversion. Donc en fait, c'est des fonctionnalités qui se mettent en place. Il y a aussi des modules pour du PrestaShop, du Magento, du WordPress qui fonctionnouillent. Ça ne fonctionne pas toujours selon les développements mis en place. Il faut toujours retoucher, mais c'est une bonne base. Par contre, les chiffres sont peut-être ne correspondent pas aux développements qui ont été mis en place sur votre site. En gros, on va vous lister l'ensemble de vos sessions. Ensuite, on va mettre des tags où on va savoir qu'un internaute a consulté un produit. Donc c'est quand même assez intéressant. Premier ratio. Je sais que j'ai des internautes qui arrivent et qui ne voient pas la fiche produit, ou au contraire, qui voient la fiche produit. Ensuite, il y a un tracking qui se met en place sur l'ajout au panier, et là, un énorme gap qui se crée. Et finalement, des internautes qui vont rentrer dans le checkout, c'est-à-dire la première étape de votre entonnoir de conversion. Alors tout ça, ça se définit. Où se situe la session avec paiement? Et donc, on peut analyser un petit peu les fuites. Et finalement, on a les sessions avec transaction. Donc tout à l'heure, ce que je vous imaginais, c'était ici. C'était une analyse qui se passait ici. Et en fait, on se rend compte que c'est peut-être ici qu'on a un vrai problème. C'est peut-être ici qu'on a un vrai levier à optimiser quelque part. C'est qu'on a des internautes qui se rendent à un moment donné sur une page produit, mais qu'il n'ajoute pas au panier. Est-ce que c'est des problèmes de boutons de réassurance? Est-ce que c'est des produits qui sont hors stock? Ça peut se mesurer. Est-ce que c'est des produits dont la taille n'est pas nécessairement disponible? Ça peut aussi se mesurer. Bref, il y a plein de choses qu'on peut venir mesurer pour essayer d'identifier à un moment donné pourquoi on a des produits consultés mais pas d'ajout au panier. Ça peut être derrière des leviers de marketing automation. Enfin, on peut faire plein de choses. Il faut simplement analyser en fait cette perte massive d'audience à un moment donné. Parce qu'après, là, sur ce site, en fait, on ne perd pas grand-chose. Donc voilà à quoi sert le e-commerce avancé. Sachant qu'on peut le faire sans ces fonctionnalités. Alors, l'idée, c'est de se dire, il va falloir à un moment donné que je puisse identifier les catégories, les produits, l'ajout de produits et le démarrage de l'entonnoir de conversion. Et l'idée, c'est d'utiliser une fonctionnalité dans Google Analytics qui s'appelle les segments. Donc c'est une fonctionnalité que vous retrouvez toujours en haut de chacun des écrans. De base, vous êtes sur tous les utilisateurs, vous allez le voir partout. En fait, vous avez la possibilité de créer ce qu'on appelle des segments. Et donc là, l'idée, c'est de créer un segment de type séquence dans Google Analytics où on va aller chercher en première page, en étape 1, un internaute qui voit une page correspondant par exemple à vos produits et en étape 2, qui est suivi, donc pas immédiatement, l'internaute a le droit de faire plusieurs pages catégories, de revenir en arrière, il a le droit de faire tout ça. Et ensuite, qui sera suivi par une page produit. Et hop, ça vous crée un chiffre. Et ce chiffre, par exemple, il va être de 4500. Et en fait, vous allez construire vos petits segments. Alors, c'est un peu fastidieux, c'est pas toujours facile à faire selon les structures d'URL. Mais l'idée, en fait, c'est de se dire, je vais me faire moi-même dans mon petit Excel avec 4 ou 5 segments et je vais faire mon 4 to product, mon product to panier, mon ajout au panier VS, la vue de la page panier et la page panier à l'achat. Et comme ça, on se refait un petit peu ce type de données. Ça évite de mettre le e-commerce avancé, parce que c'est long et fastidieux, mais ça a un coût. Ça permet de cibler des problématiques. Et puis derrière, on peut aussi se dire, je vais le comparer à l'ensemble de mes sessions. Et là, on a vraiment un gros gap qui se met en place. Voilà, donc par exemple ici, j'ai plus que 55% de mon audience qui va à la fiche produit. Et surtout, il ne me reste que 11% de mon audience qui va au panier. Donc, il va falloir que je creuse un petit peu ces différents passages. Donc là, je vais rentrer dans de l'analyse, je vais aller regarder les taux de rebond, les taux de sortie. Je vais aller regarder tous ces KPI qui vont essayer de me dire « j'ai un problème sur mon site ». Et puis finalement, il y a pour l'expérience utilisateur. Donc là, en fait, on est sur des mises en place aussi qui sont liées à de l'implémentation. Donc en fait, souvent, l'utilité d'une fonction dans Google Analytics, question assez récurrente, combien j'ai de clics sur le bouton, est-ce qu'ils utilisent l'impression, est-ce qu'il y a des partages sociaux, est-ce qu'ils utilisent les onglets dans mes fiches produits pour aller voir la fiche technique, est-ce qu'ils téléchargent mon PDF à un moment donné, qui peut d'ailleurs être une micro-conversion, le téléchargement de PDF. Donc en fait, vous avez tout ce qui s'appelle les événements dans Google Analytics, ça nécessite obligatoirement de la mise en place. Là aussi, vous avez des plugins un petit peu natifs sur certaines solutions qui peuvent être mises en place, qui vont faire des choses qui ne vont pas nécessairement correspondre à ce que vous faites. Vous allez retrouver les liens externes, les téléchargements de tout type de documents, que ce soit du PDF, du doc, de l'Excel, selon ce que vous mettez en place sur votre site. Et en fait, on peut tout traquer. On peut traquer le scroll, c'est-à-dire la capacité d'un internaute à scroller. Tout à l'heure, je vous parlais de lecteur-scanner. Une première étape, c'est de se dire, est-ce qu'il y a du scroll au sein de mes pages? Et là, ce qu'on arrive assez facilement à voir, c'est que j'ai plus de 54% de mon audience qui ne va pas plus de 25% de scroll. Donc soit il a l'information avant, soit ça ne l'intéresse pas du tout. Donc deux solutions, arrêtez de faire du contenu, trop en tout cas, ou remontez vos boutons de mise au panier, de devis, etc. Après, ça va dépendre bien sûr toujours de vos objectifs. Et puis ensuite, on peut traquer absolument tout. Ici, un clic sur un bouton de téléphone, des liens externes, un clic sur un mail tout, qu'on retrouve beaucoup, on a le formulaire de contact. Et puis en fait, juste à côté, on fait « pour nous contacter, veuillez contacter contact@monentreprise.fr ». Et on voudrait toujours mesurer, et en fait on se rend compte qu'on n'a pas de soumission de formulaire. Parce que peut-être que les internautes cliquent sur le mail tout pour vous contacter en direct via leur Thunderbird, et ça ne se mesure pas. Voilà des utilisations, donc là on est sur un site e-tourisme, un CDT, et ils ont développé une grosse fonctionnalité qui s'appelle le carnet de voyage. En gros, vous mettez au panier cette ABI, ce circuit, ce VTT, et en fait c'est des gros développements de l'agence et en fait, c'est peu utilisé. Donc ça permet aussi de faire des choix à un moment donné. C'est peu cliqué, est-ce qu'il faut que je bouge ce bouton? Donc on va mettre du test AB ou est-ce que c'est trop fastidieux, trop coûteux et je supprime la fonctionnalité? Et puis on peut aller très très loin. Là ici, on mesure les internautes qui vont cliquer sur le à proximité dans les restaurants. c'est-à-dire qu'ils sont sur une fiche d'hôtel, d'hébergement quelconque. Et puis vous avez des onglets et on regarde un petit peu qu'est-ce qu'ils aiment. Donc ils aiment cliquer sur les restaurants. Et je vous parlais tout à l'heure, c'est l'occasion de parler de ça, je vais vous parler un petit peu de Google Optimize. Une fois que vous avez fait l'ensemble de ces analyses, à un moment donné, il y a des choix qui vont s'opérer sur votre site internet. Et l'idée, c'est de se dire, est-ce que le choix que je vais faire sera le bon ? Est-ce que remonter mon bouton de panier, est-ce que changer sa couleur, est-ce que faire ce que j'ai envie de faire, est-ce que mon hypothèse est-elle bonne ? Eh bien, vous avez une solution gratuite, fastidieuse à analyser et à mettre en place, mais néanmoins gratuite, qui s'appelle Google Optimize. Donc, c'est un outil qui est sorti il y a 2-3 ans et qui vous permet de faire du test A/B. Assez simple à utiliser. Et en gros, vous allez présenter à votre audience, en général 50% du trafic, une variation A de votre page ou une variation B de votre page. Et ensuite, le gros avantage, c'est comme c'est un produit Google, il va être en mesure d'analyser les anciennes transactions que vous avez eues sur votre compte Analytics et de déterminer, en fait, à un moment donné, si votre variation A, celle que vous avez voulu changer, est plus performante ou pas. Donc là, par exemple, la variation A a augmenté de 18%, tandis que la variation B augmente de 35%, le KPI qu'on cherche à analyser. Donc, on va appeler son développeur, une fois que le test A/B est mis en place, on va lui dire, on modifie définitivement, et comme ça, on fait de l'optimisation progressive sur son site. Les avantages, moindre coût, entre guillemets, et solution gratuite, ça c'est sûr. Suffisamment puissante pour améliorer les performances, vous avez beaucoup d'outils, Chameleon, Hotjar, plein de solutions payantes qui vous proposent ça avec de l'accompagnement A/B testing, merci, qui vous aide sur... Donc on n'est plus sur du consulting, et idéal pour s'initier à la mise en place de tests A/B. Alors il faut quand même faire un petit peu attention. Donc, il vous faut Google Universal Analytics, il vous faut Google Tag Manager et Google Optimize pour mettre en place les données. C'est juste une extension. Cette extension va vous permettre en fait de modifier votre page. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand vous démarrez Google Optimize, vous êtes sur votre page et vous supprimez les éléments, vous changez la couleur. Ça se fait très simplement comme un éditeur de page sur Drupal, me semble-t-il, ou sur certains CMS où vous êtes directement dans la page et vous modifiez les éléments. Alors, il faut s'y connaître un petit peu en CSS, en couleur, en texte, et vous pouvez changer du texte. Vous pouvez tout changer sur votre site. Donc, en termes d'étapes, on recherche les optimisations. C'est toute la phase de travail qu'on vient de voir en amont de cette présentation. Ensuite, on génère des hypothèses. Alors, c'est une hypothèse. C'est changer la couleur de mon bouton en rouge va améliorer mon taux de clic sur mon panier. Et c'est pas changer la couleur de mon bouton en rouge de mon bouton panier va augmenter ma transformation. On essaye de générer des hypothèses facilement mesurables, qui ne sera pas subjective, et on génère une hypothèse les unes après les autres. Ensuite, on fait des tests. On met en place le test. On l'expérimente, donc pendant un certain temps. En fait, c'est Google qui va vous dire à un moment donné, le test est bon, j'ai suffisamment de données. Et en fait, pour ne pas trop vous embêter avec la méthodologie, on est sur la méthodologie du pile ou face. C'est-à-dire que si vous lancez 10 fois une pièce, vous avez peut-être des chances d'avoir 7 fois pile et 3 fois face. Et en fait, Google va lancer la pièce autant de fois qu'il est nécessaire de manière à avoir 50-50. Parce que quand vous faites pile ou face, sur le long terme, vous êtes à 50 piles, 50 faces. La mesure, et ensuite, on recommence. Parce que en fait, le bouton rouge a fonctionné sur mon bouton de panier. Mais maintenant, je vais faire quelque chose que peu de e-commerce en font. Je vais remonter mes boutons de réassurance qu'on trouve toujours en footer. Et donc, qui n'est pas au niveau du panier. On va les remonter avec une petite phrase au niveau du panier. Et donc, on va respecter ce qu'on appelle la règle de proximité, c'est-à-dire qu'on va mettre la réassurance là où l'internaute est censé cliquer. Donc au niveau du panier, on lui met livraison gratuite en 4 heures, prochain achat à moins 30%, etc., qui sont vos boutons de réassurance ou vos avantages. On peut donc tester les wordings, ajouter ou supprimer des champs de formulaire pour peu qu'ils ne soient pas obligatoires. Tous les champs qui ne sont pas obligatoires, vous pouvez les supprimer. Là, je vais rapidement parler du deuxième champ, numéro de téléphone. On a tous des portables aujourd'hui. Du champ date de naissance, qui peut éventuellement être requalifié après une commande, par exemple. Ce n'est pas toujours nécessaire. On perd près de 12 secondes hein, sur un champ date de naissance. Il y a certainement des champs de formulaire au sein de votre site qui est un petit peu compliqué. Hier, j'étais sur un site, il demande un numéro SIRET pour des particuliers, en champ obligatoire. Voilà. Donc la démarche de l'internaute, c'est d'aller taper dans Google numéro SIRET, de prendre le premier parce qu'ils savent qu'il y a 14 chiffres, me semble-t-il, dans un numéro SIRET, et de mettre n'importe quoi. Donc il faut être quand même motivé pour transformer. Donc, tester des templates de pages différentes. Vous êtes en train de mettre en place une refonte. Vous êtes prêt à mettre en place une refonte. Vous pouvez faire ce qu'on appelle des tests de redirection. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller sur mapageproduit.html, vous allez envoyer l'internaute sur mapageproduit EV2. Et comme ça, vous allez tester un petit peu sur une période courte. Mais ça vous permet de faire des tests utilisateurs. C'est quand même rassurant quand on est sur une refonte, d'avoir des chiffres qui vont vous indiquer « Ok, ça va fonctionner » ou « Non, on revoit le design, ça ne va pas fonctionner du tout. » Et puis après, vous pouvez changer les styles CSS, c'est-à-dire mettre du gras, mettre du souligné, du rouge, du vert, du bleu. Et donc, avec des résultats qui peuvent être assez rapides. Donc là, on est sur un site, un test qui a été exécuté en 37 jours. Donc, ça reste quand même assez long. 39 000 sessions pour avoir le résultat. Pour tout vous dire, on a changé une phrase sur le site et on a augmenté la transfo réellement de 27%. On est sur du formulaire d'estimation. La seule chose qu'on a rajouté, c'est le nombre d'étapes. Parce qu'en fait, on ne voyait pas le nombre d'étapes dans le formulaire. On pensait que c'était ça le problème. Donc, notre hypothèse de départ, c'était indiquer le nombre d'étapes aux internautes ne va pas les freiner dans le remplissage du formulaire. Vous savez, ces formulaires d'estimation sur les sites immobiliers où ils vous demandent tout sur votre vie, et c'est assez fastidieux. Donc là, en fait, on a dit en 5 minutes et 15 questions. Donc c'était très rapide, on a un peu exposé les transformations. Donc ça peut être très simple comme technique. Et puis finalement, il y a tout ce qui est dashboarding. Donc là, je vais vous parler d'une autre fonctionnalité des produits Google, là aussi gratuit. Donc c'est Data Studio. Donc c'est un outil de visualisation de données. Il permet de créer et de partager des tableaux de bord, des rapports et des data vis. Donc vous avez des fonctionnalités dans Google Analytics, certains les utilisent peut-être, les rapports qui ne sont pas très très jolis, sur lesquels vous êtes limité. Donc Data Studio, c'est un produit distinct qui facilite la création de rapports personnalisés à l'aide de sources de données. Donc c'est gratuit, vous avez un nombre de rapports illimité, contrairement à Google Analytics où je crois que vous avez le droit à 20 rapports. Vous avez la personnalisation des dashboards, vous pouvez partir d'une feuille blanche ou adapter un dashboard générique, ou bien partir from scratch. Il y a quelques exemples qui traînent sur Internet que vous pouvez récupérer pour vous aider. C'est la possibilité également de merger des sources de données différentes. Donc quand on est e-commerçant, on n'a pas simplement son Analytics. On peut avoir des données qui viennent d'AdWords, on peut avoir des données de son back-office. Pour les plus gros d'entre vous, on peut avoir des exports CRM, des données d'application, etc. Enfin, toutes sortes de données. Et en fait, on peut les connecter tout ensemble. Enfin, pas tout ensemble, on peut les connecter dans le même rapport, de manière à avoir une vision à la fois de données CRM et de données Analytics, plutôt que de devoir aller dans l'interface A et puis dans l'interface B. La possibilité de créer des calculs, qui est quand même très intéressante. Par exemple, quelque chose qui n'existe pas dans Google Analytics nativement, c'est la quantité moyenne de produits achetés. Et bien là, on va aller chercher deux métriques qui sont nativement présentes dans Analytics, et on fait la quantité sur la transaction, et on se construit sa petite métrique, qui est la quantité moyenne. Voilà. Ma cliente voulait la quantité moyenne, donc on lui a donné la quantité moyenne. Donc voilà, une métrique qui n'existe pas dans Analytics. Il est possible, alors pas tout, mais de créer des calculs, de transformer la donnée. Donc on peut tout mettre en minuscules, extraire de la donnée, récupérer simplement un ID de produit. Donc il faut être un peu à l'aise avec ce qu'on appelle les expressions régulières. On peut changer la donnée, c'est-à-dire que comme tout à l'heure, je vous parlais des canaux, on transforme Google organique en un terme un tout petit peu plus parlant pour votre cible. On peut briser la limite des 12 widgets dans Google Analytics. Je vous parlais des rapports. En fait, on a des rapports qui peuvent se créer dans Analytics, mais on est limité à 12 widgets. Donc, un rapport de 12 widgets, ça ne fait quand même pas grand-chose. Quand vous avez mis votre taux de conversion, votre CA, votre nombre de commandes, votre performance de commande par source, votre top 10 des pages vues, bah, on est un peu limité. On est obligé d'en recréer un autre. Enfin, ce n'est pas super simple. L'idée, c'est pas non plus de mettre 50 KPI par page, mais on n'a aucune limite. Et derrière, on a le partage facilité. Donc on a un système de partage ultra simple, on copie-colle l'URL, on l'envoie à ses N+1, N-1, DG ou autre. Un clic suffit pour le partager. Et ça peut donner ça. Donc là par exemple, on est sur un site qui s'appelle Beauté Privée, et donc on va lui lister l'ensemble de ses KPI. Alors les couleurs, le graphisme et la manière dont sont organisées les KPI, c'est une discussion avec le client. Mais on retrouve tout avec la possibilité de filtrer. Là, tout à l'heure, je vous ai montré les memberships. Bah voilà, donc elle a la possibilité de filtrer ses first buyers ou ses buyers ou ses members et l'ensemble des données vont se mettre à jour à un moment donné. Donc on retrouve les KPI qu'elle avait souhaité mettre en place, donc les principaux KPI de conversion, les top produits vendus avec le chiffre d'affaires, les quantités, le trafic vs le chiffre d'affaires, les top sources génératrices, enfin bref, on fait ce qu'on veut. On va chercher l'entonnoir de conversion, les différentes étapes du check-out. Comme ça, on peut lever des lièvres au fur et à mesure du temps. Donc, pour les quick wins, je vous en propose trois, si vous avez l'occasion de tester. L'ensemble de l'analyse de la search console, qui est quand même quelque chose d'hyper intéressant à mettre en place. Bien sûr, vous ajusterez les positions pour affiner. Là, je vous mets un exemple. D'une manière générale, vous allez exclure ma marque, donc le nom de votre site internet. Alors, des fois, il y a plusieurs wordings. Donc, n'hésitez pas à travailler un petit peu ça, parce que c'est quand même les principales requêtes de recherche sur certains sites. Et vous allez chercher une position moyenne supérieure à 5, donc supérieure à 5, mais inférieure à 20. Et à vous d'ajuster derrière. Alors, il n'y aura peut-être pas des données pour tout le monde, hein. Ça va peut-être être un peu déceptif, mais voilà, c'est un travail à engager. Je vous mets un exemple de séquence. Ce qui ne va pas correspondre à vos sites, qu'il va falloir retravailler. Mais l'avantage, c'est que vous avez simplement à cliquer sur ce lien, à choisir la vue, la propriété de votre site, et il va se mettre en place sur votre interface Analytics. Et vous aurez juste à aller le modifier. Donc une page qui correspond à mes catégories, suivie d'une page qui va correspondre à mes produits, et après vous le dupliquez, et vous faites votre produit, tout panier, tout checkout, etc. Et vous essayez de faire des paliers. En fait, je vous dis catégorie produit, panier, etc. Ce ne sera peut-être pas votre cas, mais essayez de vous poser 5 minutes sur votre compte et de vous dire à un moment donné, mon audience, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va sur une page de listing de blog, ensuite elle va sur une page article, et puis après il y a mon KPI de transformation ou de lecture. Alors c'est pas toujours simple, mais voilà, l'idée c'est de se faire ces petits jalons. Et puis finalement, je vous partage un dashboard e-commerce qui est quasiment le même que celui-ci, mais en un peu plus simplifié. Je vous fais un petit tuto parce que c'est peut-être pas toujours simple à mettre en place. Je fais pas de SAV derrière. Mais en gros, vous allez arriver sur l'interface, elle va vous demander de faire une copie du rapport. Vous allez sélectionner une source de données. Donc en fait, la source de données, vous allez devoir la créer. Donc vous allez avoir quelque chose qui va s'afficher, vous allez créer sur une source de données. Ensuite, vous allez avoir un tableau qui va s'afficher, vous allez taper Analytics dedans et vous allez sélectionner Google Analytics. Et finalement, une fois que vous aurez sélectionné Google Analytics, vous serez exactement dans l'interface Analytics. Enfin, vous allez avoir votre compte, votre propriété et votre vue. Et vous cliquez sur votre vue. Et normalement, si vous êtes e-commerçant et que vous avez du e-commerce mis en place sur Analytics, et normalement, vous allez avoir ce dashboard qui se met en place sur vos données. Donc, il n'y a pas grand-chose, mais ça va permettre de mesurer quelques petites choses. Le taux de conversion, les CA total, les transactions avec. Est-ce que c'est un ancien ou un nouvel utilisateur? Le type de support, c'est-à-dire du SEO, du payant, enfin les supports d'acquisition de vos sites. La catégorie d'appareil pour mesurer en fait votre mobile vs votre desktop. Et la région. Alors la région, c'est du bonus, mais voilà, vous allez pouvoir savoir si un internaute d'Île-de-France est plus performant qu'un internaute d'Auvergne. Sachant que, faites attention, Google ne s'est encore pas mis à jour sur les nouvelles nomenclatures de régions françaises. Donc en fait, il ne connaît pas Nouvelle-Aquitaine. Et je crois que j'en ai terminé.